Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors l'un des grands thèmes de l'actualité ces jours-ci, ce sont les pillages commis par Daesh, par l'État islamique en Syrie, n'est-ce pas ?
Oui, les opinions publiques occidentales finiraient presque par s'habituer aux assassinats perpétrés par Daesh, dont les mises en scène sanglantes scandent l'actualité internationale. Alors, jamais à court d'idées pour frapper les consciences, le prétendu État islamique sait aussi recourir aux symboles, comme le prouvent les pillages d'œuvres d'art perpétrés dans la province de Ninive, en Irak. Des pillages qui ont atteint leur objectif, celui de choquer l'Occident qu'ils visaient. Les médias y consacrent de longs développements ces jours-ci. Le Monde titre à Mossoul l'art victime de la barbarie. Libération, l'État islamique déverse sa haine sur les antiquités de Mossoul. Et Philippe Gelly, dans son éditorial du Figaro, va jusqu'à parler de crimes contre l'humanité. Que manquait-il aux djihadistes, demande-t-il, dans leur catalogue de la sauvagerie, pour démontrer une bonne foi au reste du monde qu'ils n'appartiennent pas à la communauté des hommes ? On lira d'ailleurs avec intérêt les pages que Le Figaro et Le Monde consacrent au pillage. Même si Elisabeth Follan, conservatrice au Louvre, souligne que la plupart des originaux avaient déjà été transportés ailleurs lors de la guerre d'Irak en 2003, la portée symbolique de tels gestes n'échappe à personne. Interviewé dans Le Monde, l'historien Gabriel Martinegro va jusqu'à parler d'un djihad mené contre le passé. On a un petit groupe mu par une volonté de pureté radicale et totalitaire, furieusement iconoclaste.
Alors, on a le sentiment d'une grande unité de ton dans tous ces articles. Alors, l'indignation ?
L'indignation surtout. Mais point aussi dans ces articles, la difficulté à trouver des sources fiables. En fait, les médias dépendent surtout de la propagande de Daesh. Et avant tout aussi la question, comment réagir face à ces barbaries ? Mystère. Le Parisien de vendredi fournit ironiquement une réponse, avec une somptueuse double page, le Charles de Gaulle croise contre Daesh. Un reportage exclusif et très complaisant, presque ridicule tant il manque de subtilité, avec un encadré merveilleux, le Charles de Gaulle comme si vous y étiez. De la com' donc, pour contrer la com' de l'autre camp. Pas sûr que cela suffise.
Effectivement, et nous parlions de com', et les péripéties de la vie politique française font aussi le miel des médias, non ?
Mais oui, nous avons aussi nos propres iconoclastes chez nous, avec la loi Macron, et tous ceux qui souhaitent briser les vieilles idoles du modèle social français. Donc après le Fahrenheit 49.3 de la semaine dernière, les médias reviennent sur les élections départementales qui s'annoncent difficiles. L'esprit du 11 janvier, si favorable au gouvernement, semble s'être évaporé pour de bon. Alors chaque quotidien y va de sa petite prospection, avec graphiques et statistiques livrées clé en main. Le Figaro comme Libération titre sur des sondages, réalisés par des instituts différents, mais dont les résultats convergent pour annoncer une victoire de la droite les 22 et 29 mars. Dans des pages où le conditionnel affleure à chaque ligne. Mais la conclusion est simple à tirer, et c'est Challenge qui le fait le mieux, en reprenant des formules de cadre du PS qui annoncent une dérouillée monumentale, une rouste maousse, et d'autres carrément une branlée. Le vocabulaire est très riche en la matière.
Et dans le détail, qu'est-ce qui explique ces pronostics ?
Eh bien, Le Monde de dimanche lundi fournit une analyse très intéressante d'un chercheur en sciences politiques à l'université Harvard. Le récent redécoupage des cantons, explique-t-il, va favoriser le parti qui remportera le plus de voix, donc sans doute l'UMP. Au détriment, bien sûr, des petites formations et du PS lui-même, qui est pourtant l'auteur du dit redécoupage. Alors, calcul politique pour désamorcer le poids du FN ou maladresse supplémentaire, en tout cas, le pluralisme n'en sort pas grandi. Mais nous apprend-on, et c'est très curieux, il paraît que la démocratie sortira renforcée de tout cela, avec, je cite, « à la fois une stricte parité homme-femme dans les nouveaux conseils » et un meilleur équilibre démographique dans les cantons. Le problème, c'est que ces arguments un peu minces fournis par Le Monde rappellent quelque chose. En l'occurrence, c'était déjà les arguments du gouvernement pour justifier le redécoupage l'année dernière. Et là, il se reprit tel quel. Donc, comment expliquer cette bizarrerie ? Eh bien, il faut regarder en tout petit l'encart dans le coin inférieur droit de la page. Et on apprend là-bas que le dossier est réalisé par une société de conseil en stratégie électorale qui a dirigé la campagne de porte-à-porte de Hollande et qui conseille encore son gouvernement pour les élections départementales. Autrement dit, cela ne dérange pas le journal de référence de recycler dans ses pages les analyses des conseillers gouvernementaux. Une belle leçon de neutralité.
Oui, belle leçon de neutralité, en effet. Et donc, la droite va peut-être pouvoir, pour ses départementales, profiter de la défaite annoncée du PS.
Ce n'est pas certain. Le Figaro complète ses pages politiques par une interview fleuve de Nicolas Sarkozy, en forme de programme électoral, de proposition économique surtout. programme un peu brouillon et sans grande originalité par rapport à ses nombreux rivaux déclarés, de Wauquiez à Le Maire et à Juppé, une rhétorique ultralibérale qui commence à être un peu usée et ne risque guère de convaincre. Mais certains pourraient bien y trouver leur compte. Par exemple, Marine Le Pen. Libération fait sa une en annonçant « Des 21 avril partout ». La faillite des partis de gouvernement français profite au moins à quelqu'un.
Merci Jérémy pour ta chronique qui se finit sur une note malheureusement assez pessimiste. On va maintenant quitter l'actualité nationale pour faire un petit peu de local. Alors en effet, à chaque numéro, le journal va vous proposer une enquête afin de faire la lumière sur quelque chose de louche en France, en Europe ou ailleurs évidemment. Et je vais vous annoncer du local parce que à Lyon, tout Lyonnais connaît le musée des Confluences, avec sa forme de vaisseau spatial qui se dessine, prêt à décoller dans le paysage. Et c'est toute la France qui, à la fin de l'année dernière, en a entendu parler. Des affiches dans le métro parisien, des articles dans les journaux nationaux et internationaux, et une inauguration en grande pompe en décembre dernier. Alors sur le papier, on le sait, le musée a tout pour plaire. Les collections du musée Guimet, l'ancien musée d'histoire naturelle de Lyon, et une place centrale dans le quartier de la Confluence, un quartier décidément de plus en plus attractif. Pourtant, si le musée est connu, c'est surtout pour sa construction. Elle a été longue, houleuse et faite de nombreuses malfaçons. Rendez-vous compte un petit peu, le projet remonte à l'année 2000 et le musée n'a été livré que l'année dernière. Et maintenant qu'il est livré, ses perspectives sont très incertaines. Non seulement ses coûts de fonctionnement s'annoncent élevés, mais comme il a été en partie financé par des emprunts toxiques, il grève déjà le budget de la jeune métropole lyonnaise.
Si Vinci avait mis autant d'ardeur à réaliser le chantier, qu'il en met depuis 4 jours à mobiliser tous les élus en sa faveur, le musée serait fini depuis longtemps.
La polémique encore et toujours autour du musée des Confluences. Cette fois, c'est le Conseil Général qui attaque et demande des comptes à la société Vinci. 41 millions d'euros en guise de pénalité de retard sur le chantier. Actualisée aujourd'hui, la facture du chantier s'élève désormais à 255 millions d'euros hors taxes.
Alors Vinci, des pénalités de retard, un musée qui coûte la peau des fesses ou les yeux de la tête, comme vous préférez. Ce qui est sûr, c'est que l'on n'y voit pas clair du tout. Alors à l'origine, en 2000, le projet était estimé à 60 millions d'euros. Vous venez d'entendre le chiffre de 255 millions, hors taxes, et l'association Canol, une association de contribuables du Lyonnais, parle, elle, de 287 millions d'euros pour le bâtiment et fait grimper la facture au chiffre délirant de 327 millions si l'on prend en compte les coûts du terrain. Alors pourquoi un tel dépassement de budget? La première tient à la nature même du projet voté en 2000. On décide de construire le nouveau musée dans la région de Confluence, alors en plein réaménagement, sans lui assigner de terrain. On décide de le construire quelque part entre la pointe de la Presqu'île et la gare de Perrache. Et le projet de musée, il semble plus servir d'argument électoral que de projet d'aménagement. En 2001, Michel Mercier, le porteur du musée, est candidat à la mairie de Lyon. Et il présente un projet de bâtiment fait par un cabinet autrichien comme argument électoral. Manque de chance, cela ne suffit pas et c'est le socialiste Gérard Collomb qui remporte le scrutin.
Et donc en 2001, on a bâtiment mais pas de terrain?
Oui, exactement, ce qui est normalement impossible dans les procédures françaises. Et cette question du terrain constitue rapidement un gros problème. Alors, dans Libération, le 4 décembre dernier, Michel Mercier s'expliquait ainsi. « J'aurais préféré ailleurs, mais Raymond Barre, alors maire de Lyon, a souhaité qu'on construise là. C'était le plus mauvais endroit possible, car il n'y avait pas de sol, et on savait très bien que ça n'irait pas. » Parce que oui, la zone de Confluence, elle est loin d'être stable par définition. Et cela pose d'autant plus de problèmes que le musée est lourd. Et le terrain, en plus d'être instable, il était très pollué, ce qui a engendré des travaux énormes. Alors cela augmente considérablement la facture, puisqu'elle passe de 112 millions d'euros en 2003 à 153 en 2006. Et le département du Rhône se retrouve alors obligé de vendre des actions de la Compagnie Nationale du Rhône pour financer le projet, des actions qu'il aurait pu vendre beaucoup plus cher dans le futur. Et la construction ne commence qu'en 2006, mais se retrouve émaillée de problèmes. En 2008, le constructeur initial abandonne le projet, qui est repris par Vinci en 2009. Et si aujourd'hui le Conseil Général veut faire payer à Vinci des pénalités de retard, c'est parce que la date de livraison du musée n'a cessé d'être retardée. Résultat de tout ça, un musée monumental, certes, mais plus cher que celui du Quai Branly. Et il n'est pas sûr que la question soit réglée, car les coûts de fonctionnement aussi risquent d'être très élevés, ne serait-ce qu'à cause de l'entretien de la structure. Alors là aussi, flou total, on est dans une fourchette de 15 à 30 millions d'euros par an, alors que le musée espère 3 millions de recettes seulement pour sa première année, avec la fourchette haute de 500 000 visiteurs. Et donc, la métropole lyonnaise, qui a récupéré la gestion du musée le 1er janvier dernier, voit son budget, je vous l'ai dit, déjà bien grévé par ce musée, puisque la métropole a récupéré une partie des dettes du département du Rhône qui ont servi à le financer.
La construction a été un gouffre financier et cela risque de continuer ?
Oui, bon, on a des perspectives assez incertaines. Et pourtant, le musée ne manque pas d'atouts, hein. Ses collections sont exceptionnelles, plus de 2,2 millions d'objets. Et le succès a l'air au rendez-vous. Alors le Progrès, journal local, hein, expliquait le 21 février dernier que le cap des 200 000 billets vendus avait été dépassé. Et puis le musée a un projet bien ambitieux, hein. Comme son nom l'indique, il veut réunir les lettres et les sciences, les beaux-arts et l'archéologie. Science et Avenir, en décembre, regrettait toutefois une certaine confusion de cette volonté de transdisciplinarité. À voir donc dans la durée, mais pour le moment, le public semble répondre présent.